Les fils de Dieu. Le pharaon me fait appeler. Je dois le rencontrer après ses audiences. À l'heure indiquée, l'intendant vient me chercher pour me conduire vers mon père. Entre, mon enfant. Je peux te faire part de ce que nous avons décidé avec Ptahotep au sujet de ton initiation. Est-il venu ?
Non,
dit père en me regardant un peu amusé. Es-tu allé le voir ?
Non plus,
répondit-il en souriant. Père, il y a longtemps que je voulais te demander. Comment peux-tu t'entretenir avec Ptahotep lorsqu'il ne vient pas vers toi et que tu ne vas pas vers lui? J'ai souvent remarqué que tu me disais certaines choses à son sujet qui laissaient supposer de longs entretiens. Pourtant, tu n'étais pas sorti du palais et il n'était pas venu te voir. Comment cela est-il possible? Depuis mon enfance, père était habitué à mes questions et avec sa patience habituelle, il me répond. Tu as un miroir, n'est-ce pas? Tu as déjà vu ta tête dans ce miroir?
Oui, père.
« Je vois ma tête chaque jour quand Menu soigne mes cheveux. »« Et qu'as-tu observé ?» demande père. « Que j'ai un crâne beaucoup plus allongé que celui des fils des hommes. Mais toi aussi, Ptahotep et la plupart de ceux qui appartiennent à notre race, les fils de Dieu, comme on nous appelle. Tous ont ce trait caractéristique qui se remarque même sous une coiffe ou des ornements. D'où cela vient-il? Pourquoi notre tête est-elle différente de celle des fils des hommes ?»« Écoute, mon enfant, afin que tu puisses comprendre beaucoup de choses ici sur Terre. » Mais il faut d'abord que tu saches un peu comment notre planète se développa. Comme tous les corps célestes dans l'univers, comme tout ce qui vit sur ces corps célestes, la Terre est également soumise aux lois de changement constant. De la source originelle éternelle émanent des forces divines créatrices qui, en vagues sans cesse croissantes, pénètrent jusqu'au niveau de la matière, ce qui signifie que la matière est formée de ses formes. Ce processus atteint son paroxysme dans l'ultra-matière et, automatiquement, se renverse. Le processus de spiritualisation recommence et la matière redevient énergie. Mais cela prend une éternité. Ces changements ont lieu à intervalles réguliers, mais si lentement qu'une vie humaine n'est pas assez longue pour les remarquer et les observer. Cependant, lorsqu'un tel changement, qui s'est préparé pendant des milliers d'années peut-être sans qu'on le remarque, est prêt à intervenir, il se manifeste alors soudainement. Nous vivons précisément une époque transitoire pendant laquelle les modifications se font perceptibles. Au nombre de celles-ci, il y a, sur la Terre, plusieurs peuples au crâne rond qui sont guidés et gouvernés par des souverains qui, spirituellement, leur sont très supérieurs et dont le corps est différent. Ils sont d'une stature plus fine et ont un crâne allongé. Il y eut une fois sur Terre une race tout à fait différente de celle des humains d'aujourd'hui. Elle manifestait complètement la loi de l'esprit et non celle de la matière comme c'est le cas pour les races humaines actuelles. Sa conscience s'était élevée au niveau divin et manifestait Dieu ici sur Terre, sans jamais tomber au niveau du corps, de l'égoïsme. Dans sa pureté divine, cette race mérita vraiment le nom de « fils de Dieu ». Toute la vie était fondée sur la spiritualité, l'amour, le désintéressement. Les appétits physiques, les désirs et les passions n'assombrissaient jamais l'esprit. Les membres de cette race supérieure connaissaient tous les mystères de la nature et, également, toute leur propre énergie qu'ils gardaient sous le contrôle de l'esprit. Ils avaient ainsi la faculté de soumettre la nature et d'en guider les forces. Leur savoir était illimité. Ils n'avaient pas à peiner durement pour gagner leur pain quotidien, et au lieu de le faire à la sueur de leur front, ils faisaient travailler les forces de la nature. Ils connaissaient toutes les lois de la nature, les secrets de la matière, aussi bien que ceux de leur propre être et la puissance de l'esprit. Ils savaient comment une énergie se transforme en matière et comment la matière devient énergie. Ils avaient construit des installations et des instruments avec lesquels ils pouvaient stocker, mettre en mouvement et utiliser selon les besoins non seulement toutes les forces de la nature, mais encore leurs propres énergies spirituelles. Ils vivaient en paix, heureux, et régnaient sur une grande surface de la Terre. Mais, à cette époque, il y avait déjà d'autres êtres ressemblant aux fils de Dieu, mais dotés d'un corps beaucoup plus matériel et d'un niveau de développement très inférieur. Obtus d'esprit, leur conscience s'était identifiée à leur corps. Ils vivaient dans les forêts vierges, se battaient, combattaient la nature et les animaux. C'étaient des hommes primitifs. La race des fils des hommes que tu vois dans notre pays représente un croisement entre ces deux races. Comme je te le disais, c'est la loi du mouvement et du changement qui règne dans l'univers. La Terre se trouve maintenant dans une période de matérialisation. Cela signifie que l'énergie divine créatrice s'ancre de plus en plus profondément dans la matière et que, peu à peu, le pouvoir sur Terre va tomber aux mains de races toujours plus matérielles. La race supérieure s'éteint petit à petit. Elle quitte la matière et se retire sur un plan spirituel. Elle laisse l'humanité toute seule pour un certain temps. Comparé avec le temps terrestre, cela peut faire des milliers et des milliers d'années, afin que celle-ci puisse avancer et se développer de manière indépendante, sans gestion apparente et de ses propres forces. C'est ainsi que les représentants de la race animale matérielle, primitive, doivent se multiplier selon la loi divine, devenir de plus en plus puissants jusqu'au moment où ils régneront sur Terre. Mais avant de quitter cette planète, la race supérieure devait implanter ses forces spirituelles dans la race inférieure afin de lui transmettre, après un long, très long processus, et selon les lois de l'hérédité, de s'élever de nouveau au-dessus de la matière. C'est ainsi que de nombreux fils de la race divine se sacrifièrent. Ils engendrèrent des enfants avec les filles des hommes. Ce premier mélange et les croisements qui s'ensuivirent donnèrent naissance aux individus les plus divers et, peu à peu, à de nouvelles races. L'énergie divine des fils de Dieu et la grande force physique des filles des hommes formèrent une descendance très variée. D'un côté, des géants physiques, d'un autre, des géants spirituels. Il y eut aussi des titans physiques qui héritèrent de leur mère un cerveau primitif sous-développé. La force créatrice de leur père se manifesta alors sur le plan matériel et ils devinrent des corps extraordinairement puissants. Ils utilisèrent leur force physique monstrueuse pour soumettre les plus faibles et leur nature animale en fit des tyrans craints de tous. Il y eut aussi des géants spirituels qui manifestèrent la force créatrice héritée par les centres les plus élevés du cerveau et non par le corps. Ceux-ci eurent pour mission de guider, pour un certain temps encore, la race primitive si proche de la matière ainsi que les races hybrides résultant des croisements dont je t'ai parlé. Ces guides spirituels leur enseignèrent la sagesse, les sciences et les arts, base d'une culture supérieure, et leur donnèrent l'exemple de l'amour divin universel, du désintéressement et de la grandeur spirituelle. C'est pourquoi aujourd'hui certains pays sont gouvernés dans le despotisme et la tyrannie alors que dans d'autres, la sagesse et l'amour dominent encore. Mais tout cela va disparaître peu à peu, et l'humanité n'aura plus que l'histoire, les légendes ou les traditions pour parler des grands initiés et faire connaître les sciences secrètes. Cependant, par la grâce de la loi de l'hérédité, il se peut que, même aux heures les plus sombres de la Terre, un fils de Dieu renaisse dans un corps humain pour montrer à l'humanité comment sortir de l'obscurité et du malheur.
Père, notre pays est-il celui des fils de Dieu ?
Non, mon enfant. Le continent qui fut une fois la patrie des fils de Dieu a été complètement détruit. La descendance de la race divine diminua petit à petit. Ses membres abandonnèrent leurs enveloppes matérielles et ne se réincarnèrent plus. Il n'en resta plus enfin que quelques-uns en divers points de la terre pour passer les pouvoirs aux hommes qui devenaient toujours plus puissants. Les croisements entre les deux races donnèrent naissance à certains individus qui avaient hérité du savoir magique de leur père et de l'égoïsme animal physique de leur mère. Ils s'infiltrèrent dans le temple où, grâce à leur savoir, ils reçurent l'initiation qu'hélas, ils abaissèrent au niveau de la magie noire. Ils utilisèrent à des fins personnelles leurs énergies et les forces de la nature qu'ils avaient appris à dompter grâce aux installations et instruments du temple. Les fils de Dieu qui séjournaient encore dans cette partie du monde savaient ce qui allait obligatoirement se passer. Ces énergies détruisent sans pitié ceux qui les utilisent d'une manière satanique et égoïste au lieu de divine et désintéressée. Ils savaient que les magiciens noirs couraient à leur perte. Leur aveuglement cupide allait causer une destruction générale. C'est pourquoi les derniers fils de Dieu construisirent d'immenses bateaux, fermés et isolés de tous côtés, résistant aux énergies qui pénètrent et désintègrent la matière. En secret, ils y transportèrent quelques-uns de leurs instruments, firent monter leurs familles et leurs animaux domestiques, fermèrent toutes les ouvertures et quittèrent cette partie de la terre qui allait inexorablement être détruite. Certains partirent vers le nord, d'autres vers l'est, quelques-uns vers le sud et certains arrivèrent ici à l'ouest. Les magiciens noirs perdirent bientôt le contrôle des instruments. Ils auraient dû conduire les forces divines cosmiques les plus élevées dans ces instruments et les emmagasiner, car la seule source de cette force sur Terre est l'être humain lui-même. Mais plus ces hommes devenaient cupides, et plus la qualité de la force du courant avec lequel ils chargeaient ces instruments s'altérait. Et un jour, après que les fils de Dieu se furent déjà assez éloignés, le malheur arriva. Un magicien noir dirigea involontairement dans son propre corps l'énergie qui désintègre la matière, c'est-à-dire qui la transforma en une autre forme d'énergie. Mais une fois ce processus en marche, cette matière transformée en énergie agit comme une force destructrice et se propage partout jusqu'à ce qu'elle ait tout dématérialisé. C'est ainsi que tout ce continent fut détruit. Puis, des énergies nouvelles résultant de ce même processus freinèrent, puis arrêtèrent finalement ces forces de désintégration. Toute cette partie dématérialisée devint une énergie de radiation qui atteignit d'abord les limites de l'atmosphère terrestre pour revenir ensuite retransformée dans la forme originale de toute matière.
Après encore bien des modifications, cette masse géante retomba sur terre sous forme de trompe d'eau, de boue et de sable qui semblait ne vouloir jamais cesser. Cette brèche immense, ouverte dans le corps de la Terre, laissa la voie libre aux océans. La terre ferme de l'autre hémisphère se crevassa sous l'effet de la catastrophe et les continents dérivèrent pour maintenir l'équilibre de la planète et occuper la position que nous leur connaissons maintenant. Une partie du continent perdu se trouve chez nous, sous la forme d'un très grand désert, et le danger de voir les vents emporter ces montagnes de sable et en recouvrir des terres fertiles et habitées reste menaçant. Dans leur bateau, les fils de Dieu avaient des instruments spéciaux qui permettaient au vaisseau de rester constamment à l'horizontale. Ils purent donc surmonter toutes les difficultés et débarquer sans danger. Dans les diverses parties de la Terre où ils arrivèrent, ils donnèrent naissance à de nouvelles civilisations. Leur savoir, leur sagesse et leur amour les firent bien vite accepter par les indigènes. Ils devinrent des souverains et furent adorés comme des dieux ou des demi-dieux. Leur premier souci fut d'ériger les constructions nécessaires à leurs instruments secrets pour les protéger du monde extérieur et isoler les énergies puissantes et pénétrantes stockées dans ces instruments. Ces édifices sont connus sous le nom de pyramides dans les différentes parties du monde où les fils de Dieu s'installèrent avec ce qu'ils avaient pu sauver de leurs équipements. J'avais écouté avec grande attention le récit de ces événements bouleversants. Bien des choses jusqu'alors incomprises devenaient claires. Pourtant, une question qui m'avait coûté beaucoup d'heures de réflexion restait encore sans réponse. Comment les fils de Dieu ont-ils apporté, puis soulevé et placé où il fallait ces énormes blocs de pierre ? Rappelle-toi, mon enfant, que je t'ai dit que les fils de Dieu ne travaillaient pas avec leurs forces physiques, mais qu'ils faisaient travailler les forces de la nature. Aujourd'hui encore, nous possédons quelques-uns de ces instruments avec lesquels nous pouvons neutraliser ou augmenter la force de la gravitation terrestre, selon le but recherché. C'est ainsi que nous pouvons faire perdre son poids à un objet lourd, ou inversement, l'augmenter encore. Même un enfant, avec ses petits doigts, pourrait déplacer et soulever un bloc de pierre ainsi libéré de son poids. Des bateaux ont donc pu être surchargés sans dommage de ces blocs, car ceux-ci avaient été longuement irradiés auparavant pour leur enlever toute pesanteur. Toutes les constructions extraordinaires réparties dans le monde, et que la force humaine n'aurait jamais pu réaliser, ont été édifiées de cette manière par les fils de Dieu. Pourtant, où les fils de Dieu débarquèrent, ils donnèrent l'essor à une culture élevée. Partout où ils règnent aujourd'hui, ils guident les hommes avec un amour désintéressé et consentent le sacrifice de rester encore un peu sur terre pour enseigner et propager leur force spirituelle. Autrefois, le pharaon et le grand prêtre ne faisaient qu'une seule et même personne qui était le guide spirituel et temporel du peuple. Puis, avec la culture et les richesses, le pays devint plus important. Les fils de Dieu décidèrent de se partager les devoirs. L'un d'eux prit en main le gouvernement temporel du pays, tandis que l'aîné, le chef de la race, devint le guide spirituel. Il en est toujours ainsi depuis. Le pharaon gouverne le pays, le grand prêtre remplit ses devoirs dans le temple. Il est le gardien de la connaissance dans tous les domaines. Et comme toute la connaissance jaillit d'une même source, il donne l'initiation dans les sciences, les arts et, dans le temple, la grande initiation dans l'art sans art de l'esprit. Tu sais maintenant pourquoi les hommes du peuple ont une tête différente de celle des fils de Dieu qui composent aujourd'hui encore la famille régnante. Nous qui avons ce crâne allongé, n'utilisons que peu notre intelligence, car nous pouvons faire l'expérience de la vérité, la vivre directement avec notre vue intérieure. Notre front n'est pas très bombé, car les centres cérébraux, sièges de la faculté de penser, sont juste assez développés pour percevoir les impressions extérieures et les vivre consciemment. Par contre, dans la partie postérieure du crâne, nous possédons des centres parfaitement développés. Ce sont les instruments physiques des manifestations spirituelles. Ces centres nous permettent d'élever notre conscience au niveau divin et nous confèrent toutes les qualités et facultés qui nous distinguent des fils des hommes. Les hommes, dans leur conscience, vivent dans le temps et l'espace. Nous, bien que nous ayons un corps terrestre, jouissons d'une parfaite liberté spirituelle, libérés que nous sommes du temps et de l'espace. Par la force de la conscience divine et à l'aide de ces centres, nous pouvons nous mouvoir librement dans le temps et l'espace. Cela veut dire qu'à souhait, nous pouvons aller dans le passé ou l'avenir. Dans cet état, nous pouvons vivre le passé ou l'avenir comme s'il s'agissait du présent. De la même manière, nous pouvons balayer les obstacles de l'espace et envoyer notre conscience où nous le voulons. Dans cet état, il n'y a pas d'ici ni de là. Il n'y a que le présent absolu car le passé et l'avenir, ici et là, ne sont que des aspects divers, des projections diverses d'une seule et même réalité, de l'être éternel et omniprésent, Dieu. Tes veines sont parcourues par le sang des deux races. Tu as hérité des caractéristiques de la nôtre, mais aussi de celles de la race hybride de ta mère. Malheureusement pour toi, tes Tes centres supérieurs se sont éveillés beaucoup trop tôt, avant que tu n'aies pu faire tes expériences terrestres et vaincre ta nature à demi terrestre. Tu es malheureuse de te sentir prisonnière du temps et de l'espace, entre l'ici et le là. L'esprit s'éveille en toi et aspire à sa liberté divine. Trois fois, tu as demandé l'initiation. Tu vas donc la recevoir. Tu apprendras à utiliser consciemment tous les organes supérieurs qui ne sont pas encore pleinement actifs en toi. Tu auras aussi la faculté d'établir le contact avec tous ceux de ta race à n'importe quel moment et d'échanger tes pensées avec eux. C'est de cette manière que je peux toujours trouver mon frère Taotep et tous les autres fils de Dieu encore sur Terre, m'entretenir avec eux, échanger nos idées dans une unité de conscience parfaite, bien mieux que si nous le faisions sur un plan terrestre avec l'aide du larynx, de la langue et des oreilles. Nous nous cherchons dans notre conscience, n'importe quand. Nous sentons immédiatement si l'autre est occupé, s'il se concentre sur quelque chose d'autre, et ne le dérangeons que s'il y a un message très important à passer. Autrement, nous nous retirons. Il t'est aisé de comprendre pourquoi seuls des êtres de parfait désintéressement peuvent posséder de telles facultés. Si les fils des hommes cupides et égoïstes en étaient capables, il en résulterait un tel chaos que tous les organes subtils en seraient détruits. En général, chaque soir, après avoir rempli nos devoirs de la journée, nous nous réunissons dans notre conscience, et cette unité nous permet de voir nos pensées respectives. C'est ainsi que nous rencontrons instantanément ce qui, dans le monde de trois dimensions, exigerait beaucoup de temps. Après avoir discuté de nos tâches dans ce monde, nous faisons passer notre conscience au niveau dimensionnel de l'omniconscience pour puiser de la source divine originelle une nouvelle énergie vitale. Dans cet état et dans l'unité originelle divine, nous sommes un et identiques avec toutes les créatures vivantes, avec le tout, avec l'être éternel, donc avec l'essence même de toute manifestation, avec toi aussi. Seuls les êtres qui vivent encore dans le monde de trois dimensions n'en sont pas conscients. Mais un jour, chaque être s'éveille de son long sommeil plein de force vitale renouvelée, qu'il sache ou non que cette force émane de la source originelle divine. Ainsi, tu vas recevoir l'initiation. Tu t'engages sur une longue route. Tu devras parcourir ce chemin ici sur Terre, après que Ptahotep et moi aurons quitté le plan tridimensionnel et que nous serons devenus des esprits évoluant dans la sphère de la Terre. J'ai d'autres devoirs que Ptahotep. Il sera donc le guide de ton âme et de ton esprit. Mais nous restons liés dans l'unité éternelle. Il eût été préférable pour toi d'avoir eu davantage de patience. Mais tu es comme tu es, et cela détermine ton destin et ton avenir. Nous ne pouvons intervenir. La force émanant de l'unité t'accompagnera toujours et t'aidera dans les moments difficiles. Puisqu'auprès de moi, tu dois remplacer la femme du pharaon, tu es dispensé d'habiter au temple pendant la période de l'initiation comme les autres néophytes. Mais tu t'y rendras chaque matin pour y recevoir l'enseignement et les devoirs. Tu feras les exercices en compagnie des autres néophytes et, le soir, tu rentreras au palais. Lors des cérémonies, fais en sorte d'être près de moi au moment opportun. Tu peux donc t'annoncer demain matin déjà auprès de Ptahotep. Une question me reste encore sur la langue, et Père me jette un regard interrogateur. Père, tu m'as dit que, pour propager leur force spirituelle, les fils de Dieu avaient pris femme chez les hommes. Les filles des fils de Dieu ne prirent-elles pas aussi pour mari des fils des hommes ? Pourquoi seuls les fils de Dieu ont-ils eu des enfants avec les filles des hommes, et non pas aussi les filles de Dieu avec les fils des hommes ? Père plonge son regard très profondément dans le mien. Grave ma réponse dans ta mémoire et ne l'oublie jamais. Si tu comprends bien cette vérité, nous pouvons peut-être encore changer la direction de ton destin. Si, d'un verre de vin rouge, tu enlèves une goutte pour la mettre dans un verre de vin blanc, le vin rouge dans le verre reste aussi pur qu'avant. Par contre, le vin blanc n'est plus du vin blanc pur, il est déjà un mélange des deux. Et maintenant, si tu prends un peu de ce vin blanc, ce que tu verses est aussi un mélange des vins rouges et blancs. Comprends-tu, mon enfant ? Oui, père, je comprends. Cela signifie que le sang d'un fils de Dieu de pure race reste pur, même s'il procrée des enfants avec une fille des hommes. Mais le sang d'une fille de Dieu de pure race deviendra mélangé si elle épousait un fils des hommes. Et dès lors, elle serait un mélange tout comme le seraient ses enfants à venir. Garde cette vérité vivante et consciente en toi à chaque instant de ta vie, me dit Père. Il se lève, je m'incline, il me bénit. Je sors gardant dans mon cœur l'unité de l'esprit.